Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit. Et cet esprit aussi, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous revigore, qui fait croître Christ en nous. Seigneur, tu nous l'as donné aussi pour comprendre la révélation de ta parole. Cette parole qui dure éternellement, ce qui ne change pas. Mais Seigneur, nous avons besoin de la comprendre et de l'assimiler pour que notre foi grandisse. Nous te prions de la bénir alors que nous l'ouvrons ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, on reprend les versets d'Hébreux, dans Hébreux, puisque nous sommes dans la découverte de nos racines protestantes évangéliques. Et ce chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, nous présente ce que c'est que la foi, hein, la foi qui est la certitude ou la perception des choses qui sont invisibles, hein, nous les saisissons et nous voyons qu'il y a tout un tas de témoins. De ceux qui témoignent de leur foi dans le chapitre 11. Et ce chapitre se termine par le verset 40. « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Vous savez que ce meilleur, c'est quoi? C'est Christ. Tout est centré sur Christ. Avant Christ, ceux qui avaient la foi, ils anticipaient Christ, et ceux qui suivent, comme nous, hein, nous ne sommes plus au temps de Christ maintenant, eh bien, nous regardons à Christ. Donc tout regarde à Christ. C'est pas une question de temporalité, de passé ou de futur, parce que Christ, il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temporel, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'intemporel et dans l'incréé. Et au verset 1er du chapitre 12, donc on lit le chapitre 12, verset 1er, nous donc aussi, vous voyez, donc ce nous donc aussi nous inclut dans toute cette nuée de témoins qui est dans le passé, mais qui est aussi dans le futur, puisque nous sommes plus loin que ce texte des Hébreux qui a été écrit au 1er siècle. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Juste pour rappeler quelques points importants de ces trois versets, avant de revenir à notre sujet, c'est important de voir que le Seigneur nous propose que la vie chrétienne est une épreuve. L'épreuve, ce n'est pas forcément quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qui nous fait passer d'un point à un autre en étant grandi. Voyez-vous ? L'épreuve du bac, bon, peut-être ça peut être douloureux pour certains, mais ce n'est pas forcément pour d'autres. Ceux qui ont appris, ce n'est pas une douleur, c'est, voilà, c'est simplement un passage. Voilà, et ils donnent ce qu'ils ont donné. Voyez ? Donc tout dépend si on a appris avant ou pas. Effectivement, c'est très stressant si on n'a rien fait dans l'année. Mais ça, c'est un autre problème. Mais si on a travaillé, voilà, c'est juste une épreuve. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça, puisque je sais pas cette année combien il y a eu de résultats, mais c'est dans plus de 90%, je crois. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement un test pour vérifier un certain nombre de connaissances. Il y a des épreuves qui sont plus difficiles que ça. L'épreuve du chrétien n'est pas difficile du tout. Alors, encore moins que le bac. Pourquoi? Parce que Jésus a tout fait pour nous. Ça s'appelle la grâce. Oui. Et c'est justement la découverte du protestantisme qui a rappelé que nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Nous n'avons rien à faire. Jésus a tout fait. Voyez. Donc déjà, en tant qu'épreuve, c'est quand même... Hein, la seule épreuve, c'est de croire. Voilà. Et ça, déjà, il y a beaucoup sur la terre qui ne veulent pas accéder à cette foi. Et c'est bien dommage, puisque c'est juste une étape. Ensuite, après, quand on est chrétien, il y a d'autres épreuves qui nous attendent. Mais là, c'est pareil, c'est juste une vérification que nous avons compris ce que c'est que la foi. Et si nous l'avons compris, ben, cette épreuve, eh bien, nous fait passer d'un point à un autre, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez, donc il ne faut pas voir l'épreuve comme une difficulté, bien sûr, on peut, mais ce n'est pas du tout la Bible qui le propose, c'est nous qui le voyons comme une difficulté, mais c'est simplement que nous puissions passer d'un point à un autre pour grandir dans la connaissance de Jésus. D'ailleurs, c'est marqué au verset 2, les yeux fixés sur Jésus. Voyez-vous, le secret, c'est de fixer nos yeux sur Jésus. Et Jésus nous donne, eh bien, la grâce, il nous tient la main, il nous tire en avant. Et ça, ça s'appelle la grâce. Voilà. Donc, si nous avons des problèmes dans notre vie chrétienne, c'est nous, c'est pas Dieu. C'est simplement parce qu'on se laisse pas tirer, parce qu'on veut faire des choses. Ouais. Donc, soyons dans le repos. Et rien de plus que les vacances pour dire ça. Hein. Soyons dans le repos. Et le repos, ça veut dire faire confiance, ça veut dire la foi dans le Seigneur. Il faut noter aussi que rejeter tout fardeau, c'est important pour courir plus vite. Imaginez, là on vient de parler de la fille de Colin Urquhart, je ne savais pas qu'il avait ses capacités à faire des Jeux Olympiques, mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui court le 100 mètres, ou peu importe quelle course d'ailleurs, avoir un sac à dos? Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Vous croyez que s'ils emmènent un sac à dos, et ils vont réussir la course? Non. Ouais, pardon? Ah, pas les premiers. Ils vont pas être les premiers. Donc en général, ils ont un maillot qui d'ailleurs les aide à profiler, faire de la vitesse, mais ils n'ont pas de fardeau. Eh bien, la parole de Dieu nous dit rejeter tout fardeau. Et on sait combien la vie nous fait porter des fardeaux. Il y en a qui n'ont pas de fardeau ce matin? Non? Il y a juste une personne qui n'a pas de fardeau. Donc tous vous avez des fardeaux. Eh bien, il faut les rejeter. Vous voyez? Il n'est pas dit aimez-les. Il dit les rejeter. Il faut rejeter les fardeaux. Si nous avons des fardeaux, il faut les rejeter par la foi. Hein. Le péché, il nous ralentit. Hein. Le péché, c'est un fardeau. Voyez, et le péché nous ralentit dans notre marche. Il faut que ce péché qui nous enveloppe si facilement, comme il est dit, hein, c'est tellement facile. Pourquoi? Parce que c'est notre nature qui attire le péché. Notre nature que nous n'avons pas encore complètement abandonnée, et nous l'abandonnerons qu'à la mort, malheureusement. Donc il faut faire avec. Mais plus nous poursuivons les épreuves, eh bien plus facile ce sera de les abandonner. Voyez-vous, la difficulté, c'est d'abandonner les fardeaux. Et donc plus nous comprenons comment il faut les lâcher, ces fardeaux, eh bien plus vite nous irons vers notre destinée. D'ailleurs, l'analogie est pas, il faut pas toujours pousser toutes les analogies trop loin. Quand on parle de course, hein, nous, dans notre esprit, c'est d'être le premier. Hein, d'être le premier. Parce que on voit les Olympiques, qui est le premier, qui est sur l'estrade et tout ça. Mais avec le Seigneur, on est tous dans la course et on ne cherche pas à être le premier ou le dernier. C'est simplement être dans la course. On a tous des courses différentes. On a tous des épreuves différentes. Voyez, on a tous des appels différents. Et ça, je vais le rappeler dans l'université d'été, où Paul dit il faut apprendre à connaître son appel, il faut discerner son appel, et il faut discerner ses dons. Et savoir se limiter à ça. Le problème, c'est que nous, dans notre chair, nous comparons nous-mêmes. Hein, Facebook, c'est un élément de comparaison. On présente l'image qu'on veut, d'ailleurs. Ce serait bien, d'ailleurs, que quelqu'un fasse un Facebook à notre place, ce ne serait pas le même. Voilà. Les images qu'on choisit, ce n'est pas les mêmes. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un monde d'images. On veut projeter une image de nous qui nous plaît à nous. Okay ? Ou qu'on veut que les autres voient de nous quelque chose. Okay ? Donc, on est dans ce monde-là. Mais le Seigneur dit, apprenez à connaître vos dons et à vous limiter à cela. Par contre, si vous mettez ces dons que vous avez dans une équipe, eh bien vous allez changer les choses. Voyez-vous, c'est le travail d'équipe, c'est le travail d'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'Église, la communauté. Or le problème, c'est que nous, le monde nous pousse à être les meilleurs en tout, particulièrement en France, hein. On n'est pas les meilleurs, etc. On n'a pas du tout cette mentalité d'équipe qui est plus anglo-saxonne. Mais c'est plus biblique. La Bible nous dit de connaître nos dons, de nous associer pour que justement on n'ait pas besoin d'exercer tous les dons, mais que chacun l'exerce dans la mesure de sa foi, est-il écrit. Et si chacun le fait dans la mesure de sa foi, de son appel, eh bien, d'une part, il n'y aura pas dans une communauté de jalousie, de problème, parce que chacun est dans son don, chacun est dans son appel. Et tous ensemble, on va faire avancer les choses. Et ça, c'est le projet d'une église telle que Dieu la conçoit, et on en reparlera à l'université d'été. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur, le début et la fin de notre foi. Vous savez, Jésus, on le lit à chaque... j'essaie de le lire à chaque sainte scène. On voit que Jésus a renoncé. Il a renoncé à son statut de fils de pas de fils de Dieu, il est resté fils de Dieu, mais à son statut de ce qu'il avait lorsqu'il était à la droite de Dieu et qu'il a retrouvé lorsqu'il est ressuscité, qu'il est retourné à la droite de Dieu. Mais il a renoncé à tout cela pour exercer la foi. Il n'a pas besoin de la foi, puisqu'il est Dieu. Mais en tant qu'homme, il a exercé la foi. Il nous a montré la foi. Et la foi, c'était de croire qu'en allant jusqu'au bout du projet que Dieu avait pour lui, son Père, c'est la croix, eh bien, il allait sauver toute l'humanité. Et ça, c'est la foi. Et il a renoncé à la joie qu'il a retrouvée après. Mais pendant ce temps-là, il a supporté l'épreuve pour nous. Et ça, c'est un exemple de foi qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais c'est un exemple pour nous aider, nous aussi, à faire des priorités dans nos vies. Est-ce que vous faites des priorités ou est-ce que vous vous laissez aller ? Si vous laissez aller, effectivement, vous n'aurez pas beaucoup de victoires. Ça, c'est clair. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas avoir de victoire si vous ne voulez pas faire de priorité. Il faut faire des priorités. On parlait tout à l'heure de sac à dos. Si les coureurs ne disent pas « bon bah là, ce sac à dos, il est trop lourd, je le laisse pour pouvoir courir », ils n'arriveront pas. Mais nous, c'est pareil. Si on veut courir avec tous les sacs à dos que nous avons, eh bien, effectivement, là, nous trouverons que l'épreuve est difficile. Mais si on laisse les sacs à dos, eh bien, on pourra courir beaucoup plus librement. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que chrétiens. Laissons un certain nombre de choses. Peut-être des programmes de télé. Peut-être telle ou telle chose que nous aimons. C'est pas qu'il faut plus l'aimer. C'est qu'il y a une priorité. Et le Seigneur demande des priorités. En fonction de notre appel, nos dons, le Seigneur nous demande des priorités. Et ça, il faut savoir le faire. Et c'est ce que la Bible nous recommande en disant que nous devons fixer nos regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Il nous montre que lorsque nous exerçons la foi sur le projet que Dieu a pour nous, eh bien, nous ne pouvons pas effectivement traîner toutes les priorités ensemble. Il faut savoir faire des priorités, quitte à refaire certaines choses que nous aimons, mais moins souvent, par exemple. Vous voyez ? Et ça, c'est ce que le chrétien mûr doit faire. Le chrétien immature, il veut tout, comme les enfants. Les enfants, ils veulent tout. Il y a des chrétiens qui restent enfants, qui veulent rester enfants, parce que c'est agréable, c'est bien, etc. Non, Donc, chrétien mûr, on doit être comme un homme ou une femme mûre qui fait des priorités. Il ne peut pas tout faire. Je sais que ma sœur, elle a beaucoup de dons aussi. Bon, elle va revenir au mois d'octobre. Elle aime bien l'Église aussi, le Seigneur. Mais elle voulait tout faire. Du dessin, de la peinture, du chant, du truc, de tout, 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 tout. Ah bah, c'est un peu explosé, hein. Son couple, ça a plus marché. Son mari ne le voyait plus, tout ça. Bon, ils ont eu des problèmes, etc. Et du coup, il a divorcé. Mais vous voyez, maintenant, assagie, voilà. La vie lui a fait comprendre, elle a pris tellement de bignes que par la force des choses, elle a compris. Mais le Seigneur nous demande de comprendre avant que nous ayons des problèmes. Hein? Et si nous comprenons avant, nous pouvons prendre des dispositions pour mettre des priorités dans nos vies. Amen. Alors toutes ces choses nous ont été transmises aussi par ceux qui nous entourent. Et je voudrais revenir un instant sur notre identité qui est faite par tous ces hommes et ces femmes qui sont sur la planche là-bas, sur la frise, qui nous ont transmis, qui nous ont donné un certain nombre de choses sur notre foi. Comment notre foi chrétienne doit être édifiée. Et comme je le disais, tout d'abord ça commence à la Réformation, donc 1500, ça commence ici, donc c'est le 16e siècle, 1600 ça commence là jusqu'à 1700, donc c'est 17e, donc vous mettez un chiffre de plus, parce que quand on parle de siècle, hein, le premier siècle ça a commencé à 0, et ça s'est terminé à 100, donc c'est le premier siècle, donc il faut rajouter un. Donc ça c'est le 15e, 16e, 17e. Donc, au 16e siècle, ici, on appelle ça aussi la Renaissance, eh bien, il y a eu la réforme de l'Église qui était une seule, enfin il y en avait deux, il y avait l'Église catholique et l'Église orthodoxe, mais on parle de l'Occident, hein, la réforme en Occident. En Occident, l'Église catholique, hein, qui était une, eh bien, elle a complètement dégénéré, hein, dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, c'est la période du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, enfin, fin du XVe, hein. Ça c'est le Moyen-Âge. Et dans le Moyen-Âge, eh bien, ça a été très, très, très sombre. Les chrétiens ont descendu la pente, hein, au point où, si ça continuait, hein, si ça continuait comme ça, voyez-vous, c'était comme ça, eh bien, il n'y aurait plus d'église du tout. Plus d'église du tout. C'est ce qu'on appelle la grâce. Si Dieu, dans sa grâce, n'avait pas suscité cette réforme, il n'y aurait plus d'église chrétienne aujourd'hui. Parce que déjà à l'époque, même Louis XIV, alors attendez, vous connaissez Louis XIV, hein, ses mœurs, n'en parlons pas, hein, qui était dans ce siècle-là, il a dit, ce serait bien que l'archevêque de Paris croit en Dieu. J'ai lu ça, hein. Louis XIV qui dit ça. Donc imaginez l'état dans lequel était l'Église de l'époque. Même si l'archevêque ne croit pas en Dieu, alors qu'est-ce qu'il croit ? C'est pour dire que Dieu, dans sa grâce, il permet des réveils pour réveiller son peuple. Et en cela, ce qui est d'ailleurs très triste de penser ça, c'est pas beaucoup mieux que les juges. Rappelez-vous la période des juges. C'est atroce. La période des juges. Et nous, on dit, oh, on a le Saint-Esprit, on a tout. Bah, c'est pas mieux que dans la période des juges. Waouh! Je me rappelle John Wimber, avec Michel, on est allé écouter parce qu'on avait besoin de réveil aussi nous-mêmes dans les années 80. Il y a des pasteurs qui ont tout fait pour le faire venir en France. Alors là, ils ont tiré, poussé, mais ils ne sentaient pas l'appel. Bon. Il leur a fait plaisir, il est venu. Donc il était à Paris, il est venu plusieurs fois. Et là, il a touché tout le monde, tous les pasteurs sont passés sous la table, sous les chaises, enfin, moralement, parce que il a dit, mais vous en France, vous êtes comme dans la période des juges. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Wow. C'est parce qu'ils attendaient de la part de John Wimber qu'il amène le réveil, parce que comme il l'a amené en Angleterre et tout ça, mais lui, il a suivi ce que Dieu lui a demandé. Et il savait qu'en France, c'était pas le temps. Donc il faut simplement l'accepter. Mais nous, et c'est ce que je vous encourage à l'université d'été, c'est que nous pouvons être des champions. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Si nous croyons, une question de foi. Donc c'est l'épreuve de foi. Est-ce que nous voulons que notre pays change ou pas? Donc pour revenir à ce siècle de la réforme, voyez-vous, toutes ces personnes-là, ce sont des catholiques. Okay, ce sont des catholiques, pas de problème. Luther n'a jamais voulu quitter l'Église catholique, jamais. Simplement, ça a été décidé en haut lieu. Calvin non plus. Lui, c'est Olivetton non plus. Erasme non plus. Enfin, Erasme, lui, il est resté catholique. Justement, je l'aurais plutôt mis dans les autres réformateurs. Il y a en fait 5 mouvements de réforme. Hein, il n'y en a pas qu'une. On appelle la réforme. Ce sont les réformes. Dieu a suscité des réformes pour réformer son Église. Tout d'abord, l'Église catholique s'est réformée. Elle n'est pas sur cette planche-là parce qu'il y a la frise. Il faudrait la rajouter par 10, parce qu'ils ont beaucoup aussi de personnes influentes chez eux. Donc la réforme catholique, elle a été réformée à cause justement de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas Luther ou Calvin, c'est Dieu qu'il a fait. Et en 1560, ils ont convoqué un concile, ça s'appelle le concile à Trente. Trente, c'est en Italie, une ville, où ils ont complètement refondé leur théologie, qui d'ailleurs, au passage, est le salut par la foi. Même s'ils ont des œuvres qu'ils ont gardées, hein, mais la justification par la foi est dans leur réforme catholique. Il y a beaucoup qu'ils ne connaissent pas les évangéliques, parce qu'ils sont contre catholiques, hein, comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est s'intéresser réellement à ce la confession de foi. Donc, le Seigneur a réformé l'Église. Luther, alors donc il y a 5 grandes réformes différentes. Luther, réforme luthérienne, réforme calviniste, hein, Calvin, réforme radicale. Radical, ça veut dire qu'ils ont considéré que Luther et Calvin ne sont pas allés assez loin, donc ils voulaient aller plus loin. Le problème, c'est que quand on veut aller plus loin, parfois on fait aussi des bêtises, et ce qui était le cas de certains réformateurs radicaux qui ont soulevé les paysans et qui ont déclenché des milliers de morts parce qu'ils se sont révoltés, ils ont pris les armes, etc. Contre l'opposition de l'époque. Et la réforme anglicane, elle est où là? Ici, réforme médiane, anglicane en Angleterre, qui est une réforme particulière parce qu'elle n'était pas fondée sur des réformateurs qui sont basés sur la théologie. Ils sont simplement fondés sur un roi qui s'appelle Henri VIII, qui avait tellement de femmes et changé de femmes comme moi je change de chemise, et du coup le pape, bon, c'était un peu trop, bon, à l'époque c'était très libéral, mais quand même là il allait trop loin, et du coup il a dit non, j'approuve pas ce que tu fais. Il a dit moi je suis le pape, voilà. Donc il s'est déclaré pape, voilà. Et c'est comme ça que l'anglicanisme est né. Alors, comme en plus, comme avec le Brexit, ils sont toujours un petit peu isolés. Voilà, on ne peut pas trop les embêter. Ils ont gagné. Mais du coup, l'anglicanisme, c'est un mélange de catholicisme et d'évangélique. Donc c'est High Church and Low Church. Ouais. Et ça a duré pendant un certain temps jusqu'à Marie Tudor, hein, qui était catholique, et qui, en fait, ensuite, après, ils ont décidé le protestantisme. Mais donc, toutes ces réformes, plus la réforme catholique, la cinquième, hein, ça s'appelle la contre-réforme, parce que ça s'est fait en opposition à ça, mais ça s'est fait quand même. Toutes ces réformes-là n'ont pas réformé complètement la foi. Donc, elle était incomplète. Incomplète, comme nous, on est incomplet quand on fait quelque chose. Je m'explique. Il y a une loi physique. Tiens, on va le faire avec Evelyne. Tu prends juste ta main comme ça. Si je pousse, tu pousses. Et tu pousses. C'est quoi cette loi? Alors, voilà. Tu pousses. Je pousse. Tu pousses. Et pousse et je pousse. Et là, Qu'est-ce qui se passe? Quand elle pousse et je pousse, ça s'annule. Ça s'appelle l'équilibre. Parce que si moi je lâche, elle va tomber. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas uniquement une annulation. C'est pas zéro. C'est deux forces qui s'opposent. Et quand moi je lâche, il y a une force en face. Donc, vous voyez, ça s'appelle un équilibre. Okay? Vous avez compris? Tiens, pour que tu comprennes. Vas-y. Il a compris. Et comme quoi, pour ça, la physique, il faut l'expérimenter. Ouais. L'équilibre, c'est deux forces. Et le problème, tiens, on le refait là, pour montrer la réforme. Ce qui s'est passé, voilà. Et, en fait, l'Église catholique a dû lâcher parce qu'il y a une force en face. Mais quand on est chrétien, refais-le, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de pousser. Vous voyez, c'est un équilibre, mais nul. Vous voyez, si j'enlève, il ne se passe rien. Vous voyez. C'est comme ça qu'on devrait être chrétien. Mais quand on est dans le domaine naturel, on a tendance à pousser. On veut que les choses bougent. Ça, c'est sur le plan personnel. Quand vous témoignez à quelqu'un, vous essayez de le convertir. Donc, vous faites par la chair. La chair veut toujours pousser, veut toujours réagir. Or, le Seigneur voudrait qu'on agisse, pas qu'on réagisse. Mais c'est naturel. Parce qu'on veut, on est persuadé qu'effectivement c'est la vérité, donc on veut pousser. Ok? Donc, ce qu'il faut, c'est pas jeter la pierre à personne, y compris nous, on est pareil. On est toujours souvent en réaction. Et un chrétien, plus il mûrit, moins il est en réaction. Plus il est simplement dans l'action que Dieu fait. Parce que c'est Dieu qui a plus de pouvoir que nous de pousser. Vous êtes d'accord? Quand lui, il pousse, personne ne tient en face. Donc comptez plus sur le Seigneur que sur vous. Allô? Vous êtes d'accord avec ça? Mais vous voyez, des fois ça prend longtemps pour comprendre ça. Enfin, en tout cas pour moi c'était long. Moi je suis très lent à comprendre. Donc j'ai eu beaucoup d'épreuves jusqu'à ce que je comprenne ça. Or ces réformateurs, ils ont tous poussé. Ceux-là, ils ont poussé tellement fort que voilà, ils ont été détruits. Puisque ça s'est terminé dans le sang, ils ont poussé. Et du coup, en poussant, on n'est pas dans l'équilibre. On est dans une réaction. Et ce que Luther, ce que Calvin ont voulu rétablir, c'est qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Puisque l'Église catholique était arrivée au point de dire, si on donne de l'argent, on peut être sauvé. Si on donne de l'argent pour construire, à l'époque c'était la cité du Vatican, mais voilà, il y a eu tout un tas de choses à payer. Et aujourd'hui, les églises évangéliques aussi font ça. Ok, on entend une mouche voler, mais dans certaines églises, c'est l'argent. C'est pas mieux que les catholiques. De toute façon, c'est naturel, c'est la chair humaine. C'est la chair qui pousse à ça. Mais gardons-nous de ça. Gardons-nous de ça. Il faut qu'on reste dans l'équilibre. Et l'équilibre avec des forces nulles. C'est-à-dire que c'est Jésus qui, lui, est avec nous, qui, lui, va agir. C'est pas nous. Et ça s'appelle la foi. La foi, c'est un repos. C'est le repos de Dieu. Parce que Dieu a tout fait parfaitement. Ceci pour dire que ce qu'ils ont rétabli, Luther, Calvin, c'est le salut par la foi seule. Seuls nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non pas par nos œuvres. Mais il y avait d'autres choses à réformer et ils ne l'ont pas fait. Et n'ayant pas fait, ils ont intégré des choses catholiques dans leur façon de voir, dans ce qui restait. Et il a fallu d'autres mouvements, qu'on appelle des réveils, jusqu'à au moins le XVIIIe siècle, pour réformer complètement la foi biblique. Donc de là jusque-là, Wesley, on verra Wesley un peu plus tard. Et ensuite après, ici, on voit la multitude des évangélismes, la multitude, qui s'appuie en mettant un point sur un plus que l'autre. Vous voyez, c'est simplement des... Comment dirais-je C'est simplement des pondérations différentes sur quatre éléments, qu'on verra à l'université d'été aussi, sur quatre éléments qui fondent le mouvement évangélique. Mais en fait, les fondements de la réforme sont à peu près sur deux siècles et demi qu'ils ont été réformés. Alors juste un mot sur un réveil. Le réveil, donc, que le Seigneur permet pour réveiller son peuple, réveiller son Église, on peut l'assimiler à une vague. Hein, il y en a qui font du surf ici? Qu'est-ce qui fait du surf ici? Non? C'est pas un sport que vous pratiquez? Moi non plus. On peut l'assimiler à une vague. Hein, c'est de l'énergie dans la vague. Hein, la preuve, c'est qu'on peut surfer dessus. Cette énergie, eh bien, quelqu'un l'a... Pour ce qui est de l'eau, c'est le vent hein, qui pousse. Et pour un réveil spirituel, c'est le Saint-Esprit, qui est aussi un vent, d'ailleurs. C'est pour ça que l'analogie est assez bonne entre la vague et un réveil. Est-ce que vous voyez tous? Je vais peut-être l'avancer un peu. Voilà. Et donc ça, c'est la vague. Et ce qu'on constate, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous parler des réveils, qu'à partir de la réforme, le Seigneur a décidé effectivement de réveiller l'Église. Pourquoi? Parce qu'il vient. Jésus vient. Jésus revient. Il y en a qui croient à ça? Il y en a qui attendent le Seigneur? Mais comment est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'une épouse, par exemple là, on va avoir un mariage en fin d'année entre Judith et Jean-Baptiste, eh bien l'épouse se prépare. Tu es d'accord avec ça, Amélie? Tu t'es préparée? Et se prépare pour son époux, mais aussi pour la fête, pour voilà, il y a toute une préparation. Sur l'épouse se prépare aussi, mais il sait qu'il va être un peu plus dans l'ombre. Hein. Bon, c'est normal, c'est comme ça. Mais en plus, là aussi, une analogie. Hein. Nous sommes l'épouse et nous avons besoin de nous préparer. Jésus s'est déjà préparé. Il est déjà prêt. Hein. Il a déjà tout fait. Et le banquet est déjà prêt. Il nous attend. Okay. Donc nous sommes dans cette préparation de l'épouse. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi l'appel qu'on a reçu pour participer à ces rassemblements internationaux, les gatherings avec les watchmen. Parce que là, on peut vivre, pas simplement entendre, mais vivre. Voilà. Ceux qui étaient à Munich, vous voyez la différence entre parler de cela et le vivre. Vivre la préparation du retour de Jésus. Donc pour ce qui est un réveil, il y a un début, voyez-vous, et la vague elle commence, hein, parce qu'avant il n'y avait pas de vague, hein, avant c'était plat. Hein. Les surfeurs d'ailleurs, ils attendent la vague. Hein. Donc à un moment donné, la vague, elle démarre. Okay. Et ici, on arrive au point le plus haut de l'énergie, c'est-à-dire que le vent qui a poussé a réussi à faire monter la vague, mais comme il y a toujours des forces gravitationnelles, hein, là, on est dans la physique, l'eau retombe, hein. Eh bien, il y a un maximum de vagues et ça redescend. Mais ici, déjà, il y a des gouttes qui tombent et tout ça. Et comme le vent il continue à souffler, eh bien, il y a souvent une autre vague, moins importante, mais qui redémarre. Eh. Donc, un réveil en prépare un autre. Cette analogie m'aide beaucoup, moi aussi, à moins comprendre, déjà, avant de vous l'expliquer, pourquoi un réveil ne dure pas. Au départ, et ça, entre chrétiens, je sais que vous en parlez aussi avec tous ceux qui sont autour de vous, c'est un thème récurrent, une question régulière qu'on se pose. Pourquoi le réveil, il ne dure pas? On aimerait bien un réveil qui fasse une vague comme ça et qui reste. D'accord? Voilà. Vous avez déjà vu une vague comme ça qui reste? Voilà, on cherche le surnaturel. Mais sachez que tant qu'on ne sera pas avec le Seigneur, on sera dans le naturel. Ok? Donc, il y a du surnaturel, le vent, ça c'est du surnaturel, c'est notre esprit, mais nous on est la vague, on est l'eau, et on retombe. Ok? Vous voyez, donc un réveil ne dure pas. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, il émet un nouveau réveil. C'est-à-dire qu'il redémarre un nouveau réveil avec le reste du réveil précédent. Vous avez compris? Ce qui explique que vous voyez une certaine régularité des réveils. qui non seulement, pas forcément établissent des doctrines, par exemple Wesley n'a jamais voulu établir de doctrine, mais il a simplement rappelé tout ce que l'Église primitive, dans les premiers siècles, avait perdu et qui l'a refondée. Donc, ça explique qu'un réveil, eh bien, et c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête non plus dans notre orgueil, dans notre capacité. C'est le Seigneur qui suscite les réveils. Et nous sommes des agents du réveil. Et nous devons effectivement collaborer. C'est aussi un des problèmes de Colin Urquhart qui a vécu un réveil et qui souffre un petit peu. Mais le Seigneur suscite de nouveaux réveils. Donc il faut simplement rester dans l'attente, rester dans cette ferme assurance que Dieu va repartir pour un nouveau réveil. Mais par contre, il faut se préparer. En tant qu'épouse, nous devons nous préparer. Et pour cela, nous avons besoin de nous souder. Nous avons besoin d'être solidaires. Non pas dans la critique, voyez, parce qu'on peut critiquer hein, un tas de choses. Par exemple, le mouvement du réveil du Pays de Galles, avec Evan Roberts. Je reviens juste ici. Voilà, il a duré 3 ans. Hein. Ce n'était pas très, très long. On pourrait dire, mais pourquoi pas 5 ans, pourquoi pas 10 ans, pourquoi 3 ans? Ce n'est pas long. Hein. Alors ça, c'est lié à cette force ici qui a tendance à arrêter le réveil. Alors tout à l'heure, je parlais d'une force naturelle, c'est notre chair. Hein. Notre chair, elle ne peut pas porter un réveil, parce que le réveil, c'est la gloire de Dieu. Et donc, si nous ne sommes pas préparés, ce réveil, déjà, il va être moins persévérant si nous ne collaborons pas dans la préparation. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se préparer pour un réveil. Si on est rempli avec un tas de sacs à dos hein, sur notre besace, si on est pris à droite, à gauche, etc., effectivement, le Seigneur qui a besoin de nous, on ne sera pas prêt, on ne sera pas disponible. Hein. On sera dans tel loisir, dans tel machin, etc., telle activité. Donc, il faut que le Seigneur nous parle sur l'appel et que nous restions sur cet appel. Et donc, il y a le fait qu'il y a les fardeaux hein, qui tirent, il y a notre chair qui tire, etc. Puis il y a surtout quelqu'un qui ne veut pas du tout que le réveil puisse perdurer. C'est l'ennemi. L'ennemi, bien sûr, qui est là, hein, qui veille à tout ce qui se passe et qui veut toujours bien ramener le réveil à s'arrêter. Est-ce que quelqu'un a lu le livre de... Enfin, c'est, je ne sais pas s'il est encore en vente, c'est Jesse Penn Lewis, La guerre au sein. Tu l'as lu, Laurence ? La guerre au sein. La guerre au sein, c'est effectivement... une femme qui a pris des notes du réveil du Pays de Galles et qui explique tout ce qui se passe pendant le réveil. Et là, c'est hallucinant de voir les contrefaçons de l'ennemi qui fait la même chose que ce que le Saint-Esprit fait. C'est un peu comme au temps de Moïse qui est venu à la cour du Pharaon et qui a jeté son bâton par terre qui est transformé en serpent. Et les magiciens, ils ont fait pareil. Le pharaon a dit, jetez vos bâtons. Et ils sont pareils, ils sont transformés en serpents. C'est exactement pareil, c'est hallucinant. La guerre au sein, c'est un pavé comme ça, qui montre que quand il y a un réveil, l'ennemi va tout faire pour écraser le réveil. Donc il faut être averti, il faut savoir que nous aurons un combat à mener, il faut se préparer. Et là aussi, c'est l'université d'été que j'aimerais vous aider à comprendre ce combat et comment faire pour maintenir la vague ou tout au moins à préparer la nouvelle vague qui va prendre le relais. Parce que dans certains pays, par exemple, pour ce qui est du réveil morave, alors c'est le premier réveil ou le pré-réveil, si vous voulez, qui a eu lieu ici, dans cette zone-là, hein, qui d'ailleurs a été au bénéfice d'un martyr qui a eu lieu ici, c'est Jean Hus, les Hussites, en Tchécoslovaquie, donc dans le pays des Moraves et de la Bohême, qui est à côté de l'Allemagne, eh bien Jean Hus, ici, 100 ans avant Luther et Calvin, il avait déjà fait une réforme. Sauf qu'à l'époque, il a terminé sur un bûcher à Constance, ce qui a été piégé par l'Église catholique, qui l'a fait venir à un concile, et ils l'ont arrêté, ils l'ont tué, ils l'ont brûlé sur un bûcher. Mais les Moraves qui sont là, ils sont bénéfices de ce martyr, qui d'ailleurs était suivi aussi par un de ses collègues l'année d'après, qui a terminé de la même façon. Mais ici, les Moraves ont été au bénéfice de ce martyr, le sang des martyrs. Ils parlent toujours au niveau du réveil, c'est un élément du réveil. Et les Moraves ici, qui ont commencé avec le comte de Zinzendorf, eh bien, ils ont, pendant 100 ans, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ont prié. Et vous, ils ont laissé les fardeaux. Ils savaient la puissance de la prière. Et les sacs à dos qu'ils avaient, eh bien, ils avaient d'autres priorités, c'est la priorité de la prière. Et pendant 100 ans, ils ont prié. Et c'est là qu'a démarré le mouvement missionnaire de toute la planète, du monde entier. Aujourd'hui, ils ont 12 000 missionnaires qui soutiennent encore les Moraves. Vous voyez. Ils ont, à l'époque, évangélisé 24 missions. Avant, il n'y avait pas de mission, hein. Il n'y avait aucune mission. C'est eux qui ont démarré les missions, grâce à des gens qui savaient où est leur priorité. Ils savaient comment faire avancer le royaume de Dieu. Alors, je n'ai pas le temps ce matin, et je ne veux pas non plus prolonger, pour vous parler de ce mouvement morave, mais vous pouvez vous-même aussi le consulter. Ça s'appelle le mouvement piétiste. Piétisme, comme piété, comme prière, hein, parce que eux, ils ont introduit l'engagement de la foi, l'engagement du cœur, pas uniquement de la foi de la tête, mais du cœur. C'est-à-dire engager son âme dans le royaume de Dieu. Engager son âme dans le royaume de Dieu, pas simplement la tête, en disant oui, je suis sauvé, j'ai la bonne formule. Je sais que Jésus est mort pour moi, etc. Vous voyez, c'est la tête. Justifié par la tête, ça suffit pas. Il faut être le cœur. Et dans le cœur, il faut la prière. Il faut s'engager. Il faut que notre âme, nos émotions, notre intelligence, notre volonté, notre conscience soient engagées dans le royaume de Dieu. Et c'est ça le réveil. La réforme, c'était une réforme doctrinale. Mais le réveil évangélique, c'était une série de réveils où les hommes et les femmes se sont engagés pour établir le royaume de Dieu dans leur propre vie et dans la vie de ceux qui sont. Et c'est ce challenge que je voudrais vous proposer en tant qu'Église. Nous pouvons changer les choses ici. Nous pouvons changer les choses, non pas par nos forces, mais par les choix que nous faisons, des priorités dans nos vies. Et si nous faisons ces choix, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, comme il a été dans le passé. Nous avons tous ces réveils qui montrent que ça a marché, et que ça va marcher, et que ça continue à marcher. Simplement, si nous mettons les bonnes priorités. Et c'est pour ça que, dans l'université d'été, je voudrais justement vous parler de ces priorités et de la façon d'y arriver. Et le Seigneur va nous aider à ce que cette région soit touchée par l'Évangile. Amen. De notre vivant. De notre vivant. Amen. Vous le croyez ? On va prier un instant. Seigneur, nous croyons que tu as suscité de nombreux témoins autour de nous. Certains qui ont vu, comme au temps des apôtres, certains qui n'ont pas vu, mais qui l'ont vu par la foi. Et nous voyons par la foi la victoire que tu veux nous donner dans cette région, dans le temps présent. Seigneur, donne-nous simplement de faire les bons choix. Donne-nous simplement, Seigneur, de mettre les bonnes choses dans la bonne priorité, afin que ta gloire puisse se manifester au travers de nous, qu'un réveil, Seigneur, puisse démarrer. Et nous savons que c'est ton seul désir, c'est de nous utiliser, Seigneur, pour un réveil dans cette région. Merci pour les Huguenots qui ont vécu ici il y a des centaines d'années et qui nous ont laissé ce bâton de témoin, ce bâton de relais que nous avons reçu de ta part, Seigneur, pour refaire surgir, Seigneur, de cette terre, Seigneur, la foi de l'Évangile. Et nous croyons, Seigneur, que nous pouvons avoir du sens dans nos vies, et en particulier les jeunes, qui puissent avoir le sens, Seigneur, dans leur vie, dans leur existence, pour voir ta gloire, voir des vies changées, voir des vies transformées, voir, Seigneur, du travail s'établir parmi ceux qui sont en chômage ici, Seigneur. Toutes ces choses, nous pouvons les voir, à condition que nous mettions les bonnes priorités. Et toi, tu agiras, Seigneur. Merci, Père, de nous apprendre toutes ces choses au travers de ces témoins qui nous ont entourés. Merci pour ce qu'ils nous ont légué. Seigneur, donne-nous cette grâce, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, est-ce que les jeunes, il y a une communication à faire? On prend un dernier chant, hein, parce qu'on n'a pas de Sainte-Seine aujourd'hui. On prend un dernier chant pour... Oui, tu as quelque chose? L'anniversaire de Marie-France, mais